France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine qui empêche de polluer et de réchauffer en rond, donc CO2 mon amour, avec aujourd'hui Céline Bonhomme et Clotilde Thomas à la technique, et assisté de Jean-Baptiste Audibert, sans oublier Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Alors avant de parler de nos maisons et de nos bâtiments, une petite humeur, bah oui, parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses quand même depuis la semaine dernière. Départ du quinquennat sur les chapeaux de roue, c'était dimanche soir, pour la répétition générale des 24 heures du Mans, dans les rues de Paris, avec une belle victoire au finish de la Velsatis de Nicolas Sarkozy sur les motos des paparazzi et de la télé. Un vrai petit bol d'or miniature. Ça commence maintenant toujours comme ça, les présidentielles, c'est comme ça. Rubrique course automobile et élections législatives, prochain rendez-vous, le 17 juin pour le palmarès officiel. Avec en attendant un arrêt au stand de l'ami Bolloré pour un ravitaillement bien mérité après 5 années de course en tête. Sauf que tout ça, c'était sans compter sur le choc des photos et le poids des mots. Alors on a eu retraite dorée, la croisière de luxe s'amuse, on nous met dans bateau. Bon, foin de vilainie et de polémique stérile. On n'a rien compris à la parabole de notre président écologiste. Le yacht, c'est le mode de transport doux par excellence. Donc c'est un vrai symbole. Avec son grand frère, le porte-container, et ses quelques grammes d'émissions de CO2 par tonne au kilomètre, c'est donc le champion toute catégorie des moyens de transport. Vous ne me croyez pas. Bon, d'autant plus que sur les mers, les canaux, les rivières, avec ou sans voile, on peut encore faire baisser la facture grâce à l'énergie solaire. Et oui, alors au passage, un grand bravo à nos voisins suisses de Sun21 qui sont arrivés à New York mardi dernier après avoir traversé l'océan Atlantique à bord de leur petit navire qui vogue à l'électricité photovoltaïque. 13 000 km sans une goutte de pétrole, et quand même ça se fête. Or, d'après l'étude qui vient d'être publiée cette semaine par un grand cabinet d'audit et de conseil, le coût de l'énergie et des matières premières pourrait bientôt distancer les coûts de personnel au hit-parade des charges des entreprises. Donc, mondialisation à l'envers, relocalisation, le prochain sport à la mode parmi les capitaines d'industrie, ce ne sera plus le saut en parachute doré, mais bien la chasse au gaspille. Tenez, prenez la Bretagne par exemple, là-bas on n'aime pas le pétrole, surtout sur les côtes. Alors on mise sur les idées. Et comme le groupe Bolloré avec ses batteries à grande capacité made in Finistère et ses petites voitures bleues tout électriques. Alors monsieur Bolloré, la prochaine fois que vous faites une gentillesse au nouveau président, peut-être pourriez-vous lui offrir aussi une de vos petites voitures bleues électriques. Et pourquoi pas ? On va donc parler, vous l'avez compris, là aussi on va parler d'énergie, et oui, d'économie d'énergie. D'un côté on sait très bien que nous avons le réchauffement climatique, de l'autre donc ces énergies fossiles qui nous empoisonnent un petit peu l'atmosphère, et nous avons donc le bâtiment, et là-dessus on peut faire quand même de sacrées économies parce que c'est un domaine qui va être en pleine évolution. Et pour en parler, eh bien, deux spécialistes, deux hommes qui connaissent très très bien le sujet, un urbaniste et un architecte, François Pellegrin. François Pellegrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi donc le président d'honneur de l'Union nationale des syndicats français d'architectes. Alors vous dites en gros, la maison brûle, mais elle brûle surtout beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, on a les outils, les compétences aujourd'hui pour essayer de réduire tout ça, parce que beaucoup de nos concitoyens se posent des questions, les collectivités se posent des questions, mais on sent que ça traîne, quoi. Donc, c'est pas simple, quoi. Donc,
c'est pas simple. Avant de répondre, enfin, ou d'enchaîner plutôt sur cette question de la simplicité et du pourquoi attend-on, oui. Qu'est-ce qu'on attend, puisqu'on a tout pour faire, je voudrais quand même vous remercier de mettre ce sujet sur le tapis, parce que aujourd'hui je pense qu'on va parler de l'architecture au quotidien.
Oui, tout à fait.
Et moi je reproche quand même aux grands médias de ne pas souvent parler d'architecture, ou alors quand ils parlent d'architecture c'est pour nous parler des œuvres extraordinaires, c'est bien. Mm-hmm. Mais je pense que les Français, d'ailleurs la campagne électorale l'a bien montré, sont très sensibles à la qualité de leur cadre de vie et à leur environnement très proche, c'est-à-dire ça commence par leur maison et le lieu de travail. Donc je pense que dans cette heure-là, on va aborder ces questions. Et c'est vrai que je m'agace un petit peu, moi, de voir ces grandes déclarations, à commencer par notre bientôt ancien président, Jacques Chirac, qui disait « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». On a signé, la France a signé les accords de Kyoto. La France voudrait ou se targue de vouloir être la championne de l'écologie. Je trouve qu'on ne nous met pas tellement en situation de le faire. Or, les hommes sont là, ils ont les compétences. Je pense que, bien sûr, chaque profession du cadre de vie du bâtiment a des efforts de formation à faire. Les outils existent, les logiciels, les moyens de calcul. Les matériaux sont là. On a en France des grands industriels européens, internationaux qui ont les produits qui nous permettent de construire tout de suite beaucoup mieux. Mmh. Et pourtant, ça ne se met pas en œuvre. Pourquoi ? Eh bien, parce que, à mon avis, nous sommes très en retard au plan de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie financière, c'est-à-dire des mécanismes de financement de cette qualité environnementale qui produira sur des décennies, voire une centaine d'années, parce qu'un bâtiment, des équipements publics durent largement plus de 100 ans.
Des économies, si vraiment
des
on le
des économies
prend,
durables, voilà. Sûr. Mais encore faut-il, au moment où on va concevoir, au moment où on va d'abord programmer, puis concevoir, puis construire, se donner les moyens de faire bien pour
tout
longtemps.
Oui, que ce soit pour sa maison particulière, ou bien effectivement que ce soit pour une collectivité.
Absolument.
C'est pareil, c'est ce raisonnement-là. Alors un homme qui connaît aussi très bien le sujet, c'est Alain Maugard, qui est le président du CSTB. Le CSTB, c'est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Alain Maugard, bonjour.
Bonjour.
Alors ce sujet-là, évidemment, vous le maniez depuis de très nombreuses années. Qu'est-ce que l'on fait dans cet établissement public, donc à caractère industriel et commercial, qui est le CSTB? Quel est le rôle? Parce que là, on voit Centre Scientifique, on se dit, qu'est-ce que vous faites? Vous testez des matériaux? Quelle est la finalité du CSTB?
La finalité, c'est à la fois de favoriser toutes les innovations qui peuvent faire avancer le bâtiment, améliorer les performances du bâtiment. Et puis, c'est aussi d'évaluer tous les produits nouveaux pour que on soit sûr d'eux et qu'on n'essuie pas les plâtres dans le secteur lorsqu'ils sont mis sur le marché. Oui, donc, il y a une double fonction, à la fois chercheurs, innovateurs, valorisant tout ce qui peut faire du progrès. Et puis, il y a sécuriser un peu vis-à-vis du progrès.
Oui, parce que très souvent, on a des innovations que l'on va lancer comme ça et on se rend compte qu'on est un peu cobaye, peut-être les uns les autres. Et il faut peut-être différencier, on va dire, ce qui fonctionne et puis peut-être vraiment les nouveautés de
oui,
demain.
Oui, c'est sûr que le bâtiment est un secteur un peu différent des autres secteurs parce que on ne peut pas se permettre de louper une innovation dans le bâtiment puisqu'il est fait pour durer.
Sinon,
on
en
prend
pour
30 ans. Et puis ensuite, tout le monde dit, mais ça ne marche pas. Et après, c'est, par exemple, les planchers chauffants qui n'étaient pas au point lorsqu'ils sont sortis, et ben, pendant 20 ans, on a dit ça marche pas, on les ressort maintenant, mais on voit bien que le secteur du bâtiment, c'est un secteur où il y a une soif d'innovation, mais on est plus prudent qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, le climat actuel, enfin le climat au sens, je fais une plaisanterie, mais au sens de changer la donne sur l'effet de serre, nous sommes rentrés désormais dans le secteur du bâtiment dans une période de grand progrès potentiel. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas un secteur où il n'y a plus rien à trouver. Il y a énormément de choses à trouver et on est même rentré dans une période où il faut faire vite. Que je rejoins ce que disait
simplement, quand on voit les chiffres, donc les bâtiments consomment environ 46% de l'énergie totale et produisent plus de 25% des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même énorme.
Oui, c'est énorme et je pense que si on fait une enquête, on ne le sait pas. On ne le sait pas suffisamment. C'est presque la moitié de la question énergétique. On a un grand pays comme la Chine qui est en train de faire des villes immenses et qui fait déborder le vase, si je puis dire, de la consommation énergétique. Le secteur du bâtiment, c'est le gros consommateur. Et puis on en parlera, vraisemblablement, avec les transports qui sont liés au fonctionnement même des bâtiments. L'ensemble des deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la civilisation urbaine, l'organisation urbaine, c'est presque deux tiers de l'effet de serre et c'est trois quarts de la question énergétique.
Ah oui, nous avons effectivement du grain à moudre et il y en a heureusement dans le secteur du bâtiment parce que c'est un secteur qui peut se rénover, il va falloir du temps, mais peut-être plus facilement que le domaine des transports. Donc nous en parlons avec nos invités François Pellegrin, Alain Maugard et puis on débute quand même en chanson avec Ibrahim Ferrer avant de retrouver Pierre Radan, un autre homme qui connaît bien aussi ses problèmes énergétiques.
Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Se lo regalé a la noche para enriquecer su manto. Se lo regalé a la noche
para enriquecer tu manto. Otra vez rodea los lagos la claridad de sus aguas. Otra vez rodea los lagos la claridad de sus aguas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Claridad de sus aguas, otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Siempre que me hablas de amores, me cuentan una mentira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira.
Merci à Carl Vasseur, notre programmateur, d'avoir choisi Ibrahim Ferrer. Très, très agréable. Sur France Inter, nous parlons de bâtiments. Et avec Pierre Adane, qui est expert en énergie, qui est l'ancien président de l'ADEME, on va se mettre à la place d'un jeune qui a 20 ans, parce que là, c'est un grand défi. Quelle sera sa maison? À quoi va ressembler, on va dire, notre maison, notre intérieur, nos appareils, dans 10 ans, 20 ans et plus? Ça va être quoi, Pierre Adane?
La première remarque qu'on peut faire, c'est quand même une énorme stabilité. Vous voyez bien qu'on habite aujourd'hui des maisons qui, pour certaines, ont 400 ans, 500 ouais. ans, et qu'elles, finalement, elles s'adaptent à des changements de comportement. Et les ingrédients de la maison restent en fait les mêmes.
Donc les invariants ne vont pas bouger.
C'est un besoin de chauffage, ouais. c'est un besoin d'eau chaude, c'est un besoin d'éclairement. Alors maintenant, bien sûr, il y a toute la partie électricité qui est venue s'ajouter depuis un siècle, mais on ne va pas avoir des fonctionnalités complètement délirantes et complètement différentes.
Alors qu'est-ce qui va changer?
Et malgré cette stabilité, tout va changer. Ouais. Tout va changer. C'est-à-dire que cette maison, aujourd'hui, elle vit mal avec son environnement. Elle vit sur une relation à l'énergie qui, pendant le XXe siècle, a été avec un coût sans cesse en réduction de l'énergie. Donc ce qui nous intéressait, c'était avoir le plus d'espace possible dans la maison, avoir davantage de pièces. Et puis la question énergétique n'intervenait pas. Et cette affaire-là va s'inverser. La grande règle de ce siècle, ça va être d'optimiser l'utilisation des ressources. Et ce qui va se jouer dans nos vies, c'est est-ce que cette confrontation à l'énergie, cette confrontation au changement climatique va nous emmener dans une régression sur nos vies personnelles, parce que l'énergie sera chère, parce que l'émission de polluants et de gaz à effet de serre sera un problème. Et moi, je pense profondément qu'on va résoudre cette question-là et qu'on va la résoudre dans ce siècle en faisant en continuant les immenses progrès qu'on a réalisés depuis 30 ans. Une maison neuve qu'on construit aujourd'hui consomme un tiers d'énergie pour son chauffage et son eau chaude que la même maison avec le même confort construite il y a 30 ans. Et donc, la maison que vous allez construire maintenant, on est en crise pétrolière, donc on se réveille un petit peu sur ces questions-là, la maison qu'on va construire maintenant va être une maison bien isolée, avec un bon vitrage. Les vitrages qu'on fait aujourd'hui sont mieux isolés que les murs d'antan. Hein? Donc, on va avoir donc une bonne qualité de cette enveloppe douillette dans laquelle on va vivre. Et puis, on va avoir des systèmes de chauffage qui vont devenir intelligents. Tu pourras, d'ici quelque temps, téléphoner à ta chaudière pour dire « je rentre tard ce soir, oui. Est-ce que tu peux pas avoir la délicatesse de monter la température du logement plus tard que prévu ?» Parce qu'on va faire ce réglage.
Dialoguer avec ces machines.
Voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on va aller dans ce siècle, on va sortir des maisons du futur qu'on commence aujourd'hui à comprendre. On sait ce que sera la maison de 2030.
La maison
de 2030.
En 2030, 20 ans, allez. Donc ça veut dire que j'ai 40 ans.
Alors c'est une maison qu'on va dire à énergie positive. C'est-à-dire une maison dans laquelle on aura tellement bien choisi les matériaux. Le dessin de la maison fait qu'elle saura puiser l'énergie de son environnement et notamment le rayonnement du soleil pour son chauffage et pour son eau chaude. Cette maison, elle pourra donc tirer de son environnement plus d'énergie que la petite famille qui habite dans cette maison n'en consommera. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ce siècle, c'est à échéance d'une génération, une maison dans laquelle les besoins de chauffage, les besoins d'eau chaude, d'éclairement, et puis tous les appareils électriques qu'on a aujourd'hui et qu'on peut rêver avoir dans le futur pour la cuisine, pour les loisirs.
Soins,
oui, non, mais aussi les loisirs, l'électronique. Et on voit bien que du côté de l'électronique, plein de choses nouvelles vont venir dans nos maisons. Eh bien, les quantités d'énergie que ça représente vont être inférieures avec la quantité d'énergie que cette maison est capable de tirer de son environnement. Et comment elle va tirer cette énergie de son environnement ? Eh ben, elle sait tirer de l'énergie de la chaleur de la Terre. C'est-à-dire qu'on sait, par une pompe à chaleur, puiser l'énergie, la chaleur qui est dans la Terre et faire du chauffage dans les logements. Les Suisses, par exemple, sont déjà très avancés dans cette direction-là. Tous les murs de cette maison et toutes les surfaces exposées au soleil sauront capter l'énergie solaire. Et donc, elle va utiliser ça pour faire de l'électricité. Bien sûr, on saura lui mettre des capteurs solaires de façon assez classique pour faire de l'eau chaude et faire du chauffage. Et quand on est aujourd'hui sur des prototypes de ce type, encore une fois, on sait plus tirer d'énergie de l'environnement que ne représentent les besoins de la famille à partir du moment où on est économe en énergie. Et donc là, on a une piste devant nous qui est celle d'une vie satisfaisante pour ici, dans les pays industrialisés, mais aussi derrière pour l'ensemble des pays en développement avec des conditions climatiques différentes, bien évidemment, à chaque fois. On sait avoir en tête une vision d'une vie personnelle satisfaisante qui ne consomme pas de combustible fossile, qui n'émet pas de polluants dans l'environnement et qui n'émet pas donc de gaz à effet de serre et qui ne contribue pas à son chauffage.
Le marché fera que ça coûtera beaucoup moins cher, donc dans 15 ans.
Oui, alors les techniques peuvent coûter plus cher qu'aujourd'hui, mais les quantités d'énergie vont diminuer. Et comme le coût de l'énergie va croissant, on est sur un compromis qui reste tout à fait acceptable. Aujourd'hui, les maisons que l'on fait, qui consomment trois fois moins d'énergie qu'en 1970, le surcoût de construction de la maison est de l'ordre de 5-10%. Donc on n'est pas sur des surcoûts de construction considérables. Donc on va avoir, à partir de ça, encore une fois, un scénario satisfaisant, mais il va passer, bien sûr, par une très grande attention à l'architecture et à l'urbanisme, une très grande attention à nos choix d'achat individuel, et puis bien sûr une très grande attention à nos comportements. C'est-à-dire que la technique, pour ce qui concerne la maison, nous donne d'ores et déjà des pistes des solutions tout à fait satisfaisantes. Mais à la condition que, bien évidemment, sur le plan culturel, sur le plan de nos comportements individuels, on soit aussi attentif à ça. On ne peut pas avoir une réussite technique et puis un échec dans nos comportements personnels. Et donc là, on a une perspective. Alors, les dates, on sait les mettre aujourd'hui. La construction neuve s'améliore cran par cran tous les 5 ans. Et cette maison à énergie positive, elle arrive dans nos vies dans l'espace de 20-25 ans, c'est-à-dire dans une génération. Et puis avec derrière, très probablement, à la fois des progrès sur la manière d'utiliser les énergies renouvelables, et puis probablement aussi des appareils électriques ou autres qui viendront dans nos vies répondre à des satisfactions nouvelles. Mais là, encore une fois, on a dans la bulle domestique, dans la sphère sédentaire de nos vies, on a un scénario de réussite qui est devant nous.
Alain Mogard, donc président du Centre scientifique et technique du bâtiment, vous confirmez un peu ce que dit, parce que c'est quand même un exercice qui n'est pas simple, hein, de se projeter d'ici une petite vingtaine d'années, ce que dit Pierre Haddad.
Oui, ben, je confirme même totalement ce qui est dit. Et de façon très concrète, toutes les pistes qu'il a relevées sont, nous les étudiants, nous pouvons dire que il n'y a pas de risque de ne pas y arriver. Voilà. La réalité, c'est que nous savons faire. C'est pas une inconnue. On n'en bute pas sur quelque chose d'impossible. On peut y arriver.
Et même sur la rénovation, parce qu'on va quand même rappeler quelques...
Alors, on va en parler. La rénovation, c'est plus difficile. Parce que tout ce qu'il a décrit, c'est pour la construction neuve.
Bien sûr.
Donc, on va parler tout à l'heure de la... Je veux revenir sur la construction neuve. En fait, le vrai sujet, à mon avis, qui a été soulevé, mais je voudrais le soulever à ma façon, c'est notre attitude vis-à-vis de l'environnement immédiat du bâtiment ou immédiat de la maison individuelle. Jusqu'à maintenant, on a considéré que tous les progrès dans le bâtiment et maison et logement collectif, c'est on nous branche sur des réseaux. On vient nous alimenter en électricité, en gaz, le fuel, on nous le livre à domicile, etc. Et le progrès dans le futur, ça sera comment je peux puiser des ressources énergétiques dans mon environnement immédiat, dans mon sol, s'il y a de l'eau à côté, dans l'air, etc. C'est-à-dire que c'est une idée de plus grande autonomie du bâtiment ou autonomie de la maison dans son milieu. On voit bien que quand on réfléchit environnement, écologie, il y a deux façons de traiter le problème. Ou bien on vous traite ailleurs le problème, on vous fournit de l'énergie qui sera chouette, pas d'effet de serre, etc. Et si on savait le faire, ça se saurait. Mmh. Ou bien on utilise, comme on dit, des énergies renouvelables. Mais ces énergies renouvelables, par définition, elles sont décentralisées. Elles sont au contact du bâtiment, au contact de la maison. Et donc, c'est une toute autre optique. C'est comment l'architecture, mais il va en parler, François Pellegrin, peut puiser cette intelligence de l'environnement. Alors, avec une idée simple, c'est que le confort restera
le même.
Oui. C'est pas un retour, parce que j'avais entendu dire ça, oui, mais ces bâtiments énergie positive, c'est le retour à la grotte, enfin, si je puis dire, le recul et tout. C'est pas vrai. Tout le confort, tout ce qu'on attend du confort, de la sécurité et tout, on le garde. C'est une conception différente du bâtiment et du logement qui puise dans son environnement. Ça, c'est vraiment l'événement le plus fort. Une idée aussi simple, c'est que ça va être paradoxalement plus facile d'y arriver dans les climats, je ne dis pas très froids, mais enfin tempérés froids ou continental froid, que dans les climats chauds. Parce que ce qu'on ne dit pas en ce moment, c'est que le vrai sujet le plus délicat, c'est celui du rafraîchissement ou refroidissement l'été. Voilà. Oui. D'ailleurs, tout le monde doit se dire, mais enfin,
ça va être plus dur de refroidir, éventuellement, que de réchauffer avec de nouvelles techniques.
Voilà. Avec quand même un paradoxe, là, je fais un peu de recherche, c'est qu'on se dit, mais quand même, dans les pays où il fait chaud, c'est qu'en général, il y a du soleil, par définition, c'est comme ça que ça chauffe, un peu plus de soleil, et le soleil, c'est l'énergie, et pourquoi on n'est pas capable de convertir, au fond, l'énergie solaire en froid, en rafraîchissement. C'est le rafraîchissement solaire ou le refroidissement solaire. Alors, on sait faire, mais paradoxalement, c'est plus coûteux que faire du chaud avec le solaire. Voilà, c'est un petit paradoxe. On va y arriver, parce que quand même, le bon sens dit que dans ces pays où il fait chaud, il y a du soleil, on va pouvoir rafraîchir. Mais je dis, là, le challenge est un peu plus compliqué.
Alors, je n'oublie pas, bien sûr, le chapitre sur la rénovation, parce que quand même, quelques chiffres importants qu'il faut juste avoir en tête. Il y a en France plus de 30 millions de logements. On construit à peu près 400 000 nouveaux logements tous les ans. Ça peut même peut-être s'accélérer. François Pellegrin, d'ailleurs, il faut bien dire que sur les 30 millions de logements, tout n'est pas bien isolé.
Mais non, parce que les premières réglementations thermiques en France remontent à 1975.
Oui.
C'est-à-dire qu'avant, bon, avant on n'avait pas de pétrole et on avait des idées, hein, pour paraphraser.
C'est ça.
Si je remonte d'ailleurs très très en avant, et je fais un clin d'œil à Alain Mauillard, parce que je vais parler de Vitruve. Vitruve nous a laissé un traité d'architecture écrit il y a 2000 ans, qui est un vrai cours du développement durable d'aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait effectivement pas de pétrole et on recherchait le confort, aussi bien l'été que l'hiver. Et il y a non seulement des leçons à prendre sur les matériaux, Vitruve parle des matériaux sains, mais il parle également de la problématique de la ville. De la ville durable, enfin, il n'emploie pas ces mots-là, mais de la façon dont on va implanter les places, les rues, les exposer au vent pour trouver un balayage naturel et amener du confort. Tout ça était pris en compte à l'époque.
Oui, parce que là on est chacun dans notre petit isolat, dans notre maison, mais c'est vrai que si on fait des efforts sur sa maison, mais que la rue elle-même, après, est tout à fait dispendieuse d'énergie, que le quartier n'est pas pensé, que la ville n'est pas pensée, c'est des efforts pour rien.
C'est pour ça que j'adhère totalement à la remarque d'Alain Mauguard sur l'importance de ce nouveau regard sur l'environnement immédiat et plus lointain comme ressource et pas uniquement comme justement fournisseur d'énergie. Là, il y a peut-être un déficit de réflexion, c'est-à-dire que si Vitruve l'a fait il y a 2000 ans, nous, plus modestement, les jeunes architectes des années 75-85, qui ont été mis sur le marché tout de suite après les deux premiers chocs pétroliers, ont tous dessiné et construit ces habitats qui viennent d'être décrits par Pierre Radan. Je voudrais quand même souligner justement l'importance du regard de l'architecte et faire la différence entre architecture et construction. On peut peut-être dire un mot, à quoi ça sert un architecte au fond ? Parce que beaucoup d'habitats, et d'ailleurs d'habitats remarquables, l'habitat dit vernaculaire, l'habitat qu'on trouve dans toutes les régions, cette maison basque avec l'avancée de toiture, ou enfin d'autres habitats, chaque région a sa caractéristique, ont été faits sans doute avec énormément de bon sens et peut-être peu d'architectes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, un mot m'a fait sursauter tout à l'heure dans l'intervention de M. Radan, le mot surcoût. Mm-hmm. Voilà le mal français. On raisonne surcoût. Mais surcoût par rapport à quoi ? Par rapport à des coûts qui sont reconnus comme débiles aujourd'hui, parce que justement, ils ne prennent en compte que l'investissement initial. Mm-hmm. Surcoût architectural, c'est le comble. Entendre parler du surcoût architectural. Alors qu'est-ce qu'un architecte ?
Comment faut raisonner là aujourd'hui ?
Je crois que la plus grande économie, en tout cas celle qui a la plus grande efficacité et qui coûte le moins cher, c'est la matière grise. Mmh. Et la matière grise, ça commence par la réflexion sur le programme et le choix du site. Quand on a envie de construire une maison ou un édifice public, il convient de s'interroger effectivement sur le choix du site.
Et quelquefois, pas mettre en plein nord, par exemple.
Et quelquefois laisser tomber le site parce que ça peut être dispendieux ou stupide selon. Bon, faut faire. Alors déjà là, il faut dépenser un peu d'argent. Il faut faire des reconnaissances de sol. Il faut se déplacer. Il faut regarder le climat. Voilà. Bon. Après, il faut miser sur des hommes de l'art et notamment l'architecte et l'archer qui travaillera pas tout seul sur ces questions. Bien sûr, il y a des thermiciens, il y a des bureaux d'études, il y a beaucoup de gens qui concourent. Oui. Il y a aussi tout ce que l'apport de l'industrie peut faire en tant que matériau. Mais la première intelligence, c'est de construire intelligemment avec le site, avec le climat. L'architecte, c'est la rencontre entre un programme, un terrain et un environnement. Et effectivement, il faut savoir conjuguer avec une espèce d'alchimie ces trois paramètres pour déboucher sur une architecture qui a du sens par rapport au site.
C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, le fait de concevoir une habitation en tenant compte de l'orientation, de l'ensoleillement, ça peut diminuer de 15 à 30% les besoins de chauffage, donc l'économie d'énergie. Hein,
par exemple, une idée simple, désormais, les fenêtres qui sont au sud, elles ont un bilan sur l'année positif, c'est-à-dire qu'il est rentré plus de chaleur qu'il n'en est ressorti, même à l'est et l'ouest. Il n'y a qu'au nord encore où il n'y a pas ce coefficient positif. Mais ça, c'est très 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 important. Non, mais alors, il faut qu'on débatte un peu là. Oui, Vitruve, très bien, Vitruve, il a déjà dit ça, mais maintenant, l'effet de serre, c'est maintenant et c'est pas à l'époque des Romains. Oui. Donc la quantité, je veux dire que l'ardente obligation d'arriver à des résultats est tout à fait différente. Mmh. Alors, il faut retrouver retrouver sans doute des fondamentaux de l'architecture, mais moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effort de compétence de toute la chaîne de conception et de construction. Ça veut dire que nous avons tous devant nous architectes, ingénieurs, entrepreneurs et industriels un challenge.
Est-ce qu'il va y avoir, Alain Mauguer, des matériaux vraiment, je sais pas, révolutionnaires, ou bien faut se méfier de ce genre d'idées reçues?
Oui, alors ça c'est... c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a le matériau miracle et tout? Alors, pour faire une description très rapide, les perspectives sur les isolants, oui, sont très bonnes. On est en train de regarder une nouvelle génération d'isolants qui pourrait être 4 fois, 5 fois supérieure aux isolants actuels. Et d'ailleurs, le meilleur isolant étant le vide. Le vide total est un isolant parfait. Le problème, c'est qu'en général, on fait des trous dans les bâtiments et que c'est incompatible avec le vide. Mais sur les bureaux ou sur certains nombres de bâtiments, arrivent certaines caractéristiques de bâtiments arrivent des solutions de ce type. Bref, on peut quand même retenir que l'isolation va faire de très très gros problèmes. Ensuite, il y a tout ce qui est pompe à chaleur, c'est-à-dire utiliser au fond l'inertie de la terre, l'inertie de tout ce qui est le truc classique à l'heure actuelle qu'on redécouvre mais qui est évident, c'est qu'une cave, elle est plus chaude que la maison, enfin que l'extérieur en hiver, et elle est plus fraîche en été. Donc on n'a qu'à piquer l'air de cette cave et on a déjà résolu en partie une partie du problème. Donc tout ce qui est pompe à chaleur va s'améliorer. Ça a été souligné tout à l'heure, il va y avoir une sorte de cerveau intelligent dans le bâtiment. D'ailleurs, si je fais une comparaison avec des animaux, je veux dire, le bâtiment, avant, pendant longtemps, ça a été uniquement l'ossature. Il fallait pas que le toit nous tombe sur la tête, il fallait se mettre à l'abri de l'eau, c'est tout. Mais maintenant, le bâtiment, c'est beaucoup plus une peau qui respire, qui joue le rôle d'isolant, c'est des viscères, c'est-à-dire des productions type pompe à chaleur, c'est des viscères internes, et puis c'est du cerveau, c'est de l'intelligence. Je veux dire que le bâtiment, il va avoir sa dose, si je puis dire, de complexification.
Alors, je voudrais pas qu'on loupe quand même le chapitre de la rénovation, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de logements aujourd'hui. C'est de l'ancien. Donc, est-ce qu'on va y avoir des nouvelles peaux, de nouveaux isolants par l'extérieur, par l'intérieur? Comment ça va se passer, ça?
Ah, alors, ça, c'est, pour faire simple, c'est plus facile, c'est plus efficace d'isoler par l'extérieur que par l'intérieur. Parce que si on isole par l'extérieur, c'est l'idée d'un manteau ou d'un imperméable, vous mettez à l'abri. Bon. Seul problème, c'est que vous changez l'architecture extérieure.
Et oui.
Bon. Ce qu'on appelle le mur manteau. Donc c'est un problème assez... Bon, prenez tous les bâtiments haussmanniens. Bon, on trouve ce qui est vrai, hein, que la façade est jolie. Si vous faites de l'isolation par l'extérieur sur l'haussmannien, ça marche pas.
Oui, ça pourrait être l'enfer.
Si vous faites en revanche de l'isolation par l'intérieur, vous dites là je change pas la façade, mais il y a ce qu'on appelle des ponts thermiques, plein de trous par où s'enfilent, si je puis dire, les calories qui se barrent.
Oui, qui sortent,
ça fuit.
Voilà. Et tous les mètres carrés. Et tous les mètres carrés qu'on va perdre.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on va quand même améliorer sur ces bâtiments existants. Lorsqu'on pourra leur coller, si je puis dire, de l'isolation par l'extérieur, on va pouvoir les améliorer sérieusement. Lorsqu'on ne pourra pas le faire, il va falloir, on améliorera un peu moins. Mais par contre, les pompes à chaleur, c'est toujours valable, y compris sur les bâtiments anciens. Donc, sur les bâtiments anciens, moi, je plaiderai des solutions très pratiques. Tout à fait au point. On ne peut pas se permettre de changer complètement le fonctionnement, l'équilibre d'un bâtiment ancien. Donc il faut qu'on soit raisonnable, il faut qu'on ne cherche pas à tout prix des améliorations de performance qui sont au fond, c'est pas qu'elles soient non réalisables, mais c'est un peu idiot de faire un exploit sur un bâtiment existant. Alors par contre, ce qui est posé, moi j'ose le dire, c'est qu'il y a bâtiment et bâtiment. Certains, il faudra les conserver, mais tout n'est pas à conserver. Mais et on peut très bien dire que si... L'ambition de la société, c'est que le bâtiment fasse zéro effet de serre, parce que c'est ça. Les bâtiments énergie positive dont on a parlé, ils font zéro effet de serre. C'est-à-dire que ceux qui faisaient 25% d'effet de serre, on passe à zéro. Il restera un effet de serre dans la construction, pour construire le bâtiment, mais que tout le monde comprenne que pendant toute la phase d'exploitation, qui était le vrai moment où on fabriquait de l'effet de serre, on fait zéro effet de serre. Écoutez, si on est capable de faire ça, un certain nombre de gens vont se dire pourquoi on s'acharne sur des bâtiments anciens et existants et pourquoi on renouvelle pas plus vite le patrimoine.
Aujourd'hui, il y a ce qui manque, et aussi François Pellegrin le dit très souvent dans des articles, c'est qu'il nous manque de l'ingénierie financière. On va quand même rappeler une chose, c'est qu'on a une absence totale de maîtrise du foncier. C'est-à-dire que moi, il y a un chiffre que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a 10-20 ans, en fait, le coût du foncier, on va dire du terrain, quand on construisait une maison, était de l'ordre de 20%.
aujourd'hui, c'est plus de 50%, François Pellegrin. Oui. Donc on se dit que l'argent qu'on met quelque part, on ne peut pas forcément l'avoir ailleurs. On n'a pas de planche à billets les uns les autres. Donc,
et là, on a un vrai problème et une vraie lacune encore en France. Je crois que, c'est-à-dire que toutes ces maisons, ces habitats dont on parle, à énergie positive, aujourd'hui, on emmène nos élus ou nos maîtres d'ouvrage à aller les visiter de l'autre côté de nos frontières,
Fribourg,
pas très loin.
Voilà, etc.
Donc on n'est pas plus bête qu'eux, et même, je crois que... Bref, on pourrait parfaitement le faire. Et là... Où est notre lacune, je pense, c'est cette maîtrise du foncier. Ce qui est terrible, c'est que chaque année, tous les acteurs, que ce soit les promoteurs, les architectes, les entrepreneurs, les industriels, etc., on fait tous ensemble des gains de productivité.
Oui.
Et dans la seconde, cet euro de productivité ou ces centaines de milliers d'euros de productivité qu'on va trouver, ils vont être avalés par celui qui vend le terrain, parce qu'on fait des raisonnements à l'envers. On dit où est le niveau de solvabilité de la clientèle, et on pense pas du tout à cette maîtrise foncière. Alors, c'est dramatique parce que la conséquence, c'est qu'on va aller chercher plus loin du terrain moins cher.
Oui.
Et on en vient à l'étalement urbain. Mmh. On en vient à ce grand sujet, finalement, de la maîtrise de l'occupation du territoire.
Ce qui fait qu'on peut avoir une maison à 100 000 euros, effectivement, voilà. Alors, cher à Borloo, mais si on doit faire 30 km et avoir le couteau sous la gorge avec deux voitures ou trois voitures, enfin, je ne sais pas, donc particulières, là,
c'est le sujet. Quand j'étais président de l'UNSFA, j'avais eu à batailler un peu avec l'équipe de Jean-Yves Borloo, qui avait d'ailleurs finalement vite compris et... introduit cette dimension dans la charte de la maison à 100 000 euros. La démonstration qu'on faisait, c'est que ça coûtait moins cher à l'acquéreur ou au locataire, et en tout cas à la collectivité locale, de faire une maison à 120 000 euros dans le village qu'une maison à 100 000 euros à 10 km de tout service.
Oui.
Bon. Mais le problème de cet étalement urbain et de cette maîtrise foncière, là n'est plus du ressort directement des constructeurs. Il est du ressort du politique à l'échelon national comme à l'échelon local. Et moi, je compte beaucoup sur l'intelligence des élus, l'intelligence des maires pour prendre en compte cette dimension. Et nous travaillons d'ailleurs aujourd'hui, l'UNSFA avec l'Association des maires de France, avec l'Union sociale pour l'habitat.
Alors, l'UNSFA, je le rappelle, donc, c'est l'Union nationale des syndicats français d'architectes.
Voilà. Donc avec l'Association des maires de France, l'Union sociale pour l'habitat, c'est-à-dire l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage sociale, et Archinov, qui est une association d'architectes et de partenaires, nous sommes en train d'écrire un ouvrage très pragmatique, très pédagogique, pour expliquer aux élus les différentes ambiances urbaines que peuvent produire différentes densités urbaines, et cela en relation avec ces notions de développement durable.
Alain Mogard, rapidement, avant que nous partions en Suisse.
Oui, on va partir en Suisse, mais en attendant, je pense que ça plaide pour donner des moyens décentralisés, de plus en plus décentralisés, aux collectivités locales. Tout ce qu'on est en train de dire va dans le même sens. Il faut qu'il puisse avoir une fiscalité locale qui tienne compte, qui serait normal, par exemple, que la taxe d'habitation soit différente selon qu'on est dans des bâtiments qui consomment plus ou moins d'énergie. Ça serait une incitation très forte, etc. Mmh. Et ça, il faut laisser. Et donc, le vrai
faut
mouvement...
Il faut rémunérer la vertu, comme disait Montesquieu. Quoi.
Oui, mais ça veut dire que politiquement, au bon sens... Politiquement, c'est un changement profond. Il faut donner des moyens décentralisés pour peser sur les prix, sur le financement. Il faut le donner aux collectivités locales et il faut le donner aux constructeurs localement. Ce n'est plus un problème aussi central. On peut penser à des grands établissements publics fonciers pour maîtriser sur les très grandes zones la hausse foncière qui est, de mon point de vue, pas admissible. Mais ça plaide pour une décentralisation.
Alors faisons un petit tour effectivement en Suisse. On va rejoindre Marc Tillmans qui est responsable de l'agence Minergie romande. Alors on essaye aussi de diminuer donc cette fameuse énergie. Minergie, c'est un label qui est destiné aux bâtiments neufs et rénovés, bon, qui offre un confort au-dessus de la moyenne tout en ayant une très faible consommation d'énergie. Donc dites-nous tout, comment ça se passe, Marc Tillmans?
Alors effectivement, c'est un label, c'est un standard de construction qui qualifie des bâtiments qui promettent un niveau de confort très élevé, qui sont salubres, donc plus de dégâts à l'humidité dans le bâtiment. Et ce sont des bâtiments qui permettent d'avoir des coûts très attractifs en termes de coûts annuels moyens.
Donc en fait, vous ne construisez pas, on est bien d'accord. Hein, c'est donc, ce sont après des constructeurs qui vont s'emparer de ce label Minergie?
Exactement. Nous ne construisons pas. Nous sommes une association ou un collectif, comme vous l'appelez en France, qui propose des exigences, donc c'est pas simplement un panier où on serre dedans, ce sont des exigences bien définies, mais qui laissent la liberté de choix architectural, choix technique, etc.
Même des matériaux ?
Alors des matériaux également, bien qu'il y a trois labels, et un label s'appelle Minergie Eco, et Eco est là pour écologie, donc là les matériaux sont sélectifs si on veut, certains matériaux ne peuvent pas être utilisés, ou alors en petite quantité.
Les principes de base d'un bâtiment Minergie, que ce soit une maison, que ce soit un immeuble collectif, quels sont-ils que l'on comprenne simplement ?
Alors c'est très simple, un bâtiment Minergie est un bâtiment conventionnel qui a été optimisé. C'est ça qui est très important à l'heure actuelle, c'est d'optimiser son bâtiment. L'optimiser tout d'abord au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Quand on parle d'enveloppe du bâtiment, on parle non seulement des façades, des fenêtres, des portes, de la toiture, mais également des ponts thermiques et de l'étanchéité du bâtiment. Donc un bâtiment optimisé au niveau de l'enveloppe doit être étanche à l'air pour maîtriser les déperditions de chaleur à travers ces inétanchéités éventuelles. Il doit être relativement exempt de ponts thermiques, ça veut dire une isolation en principe extérieure. Donc ça c'est le premier élément, c'est une très bonne enveloppe du bâtiment qui permet de garantir un confort intérieur et également une petite ou une faible consommation d'énergie.
Et sans que ça devienne une bouteille de thermos, par exemple, comme on dit ?
Alors, justement, on confond très souvent le thermos avec l'isolation ou avec l'étanchéité. L'isolation permet effectivement de créer un thermos. Un thermos, c'est une bouteille qui est isolée, donc pour éviter les déperditions de chaleur contre l'extérieur. Mm-hmm. Par contre, l'isolation n'a rien à voir avec l'étanchéité. L'étanchéité permet d'éviter les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur ou des courants d'air dans le bâtiment. Bien isoler le bâtiment, c'est très important. Étanchéifier le bâtiment, ce n'est pas forcément avec un pare-vapeur, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement en construisant son bâtiment d'une manière précise pour qu'il n'y ait pas de fuite. C'est-à-dire qu'on va maîtriser l'échange d'air par un système d'aération ou par une ouverture de fenêtre automatisée, etc. Donc ça, c'est la deuxième condition. Puisque le bâtiment est étanche, et ça c'est dans une norme suisse également, qui est stipulée que tous les bâtiments doivent être étanches, il faut amener un système intelligent d'aération du bâtiment qui est contrôlé.
Et puis enfin, lorsque l'on parle de Minergie, ça veut dire aussi le minimum d'énergie derrière tout ça, la production de chaleur, on essaie évidemment de l'avoir minimale, donc qu'est-ce que l'on fait ?
Au niveau de la production de chaleur, Minergie encourage, favorise par des facteurs de pondération les énergies renouvelables telles que le bois, le solaire, thermique, photovoltaïque, etc. L'objectif primaire, c'est naturellement de chauffer au maximum le bâtiment avec de l'énergie solaire passive, donc à travers des vitrages optimisés, donc on ne va pas mettre les mêmes vitrages au nord qu'au sud, la même quantité, etc.
Marc Tillemans, on arrive à peu près à quelle consommation ? Je veux dire par là, lorsque l'on voit des standards aujourd'hui en France, on dépasse souvent les 150 kW par mètre carré et par an. On en est où avec le standard Minergie ?
Alors nous en sommes à 42 kWh par mètre carré année. Ce chiffre tient compte non seulement des besoins de chaleur pour chauffer le bâtiment, mais également pour la production d'eau chaude sanitaire. Et également, s'il y a un système d'aération automatique, de la consommation électrique des ventilateurs. Et dans ces 42, on peut dire que environ la moitié des besoins sont utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est pour Minergie. Et Minergie P se situe à 30 kWh par mètre carré année.
Je suis un particulier, je veux faire construire une maison neuve. Ou bien je suis une collectivité qui souhaite restaurer un bâtiment. On peut s'emparer de ce label Minergie ? Comment ça se passe ?
Oui, alors il n'y a aucun souci. Ça se fait depuis de nombreuses années dans différents pays. Nous avons différentes demandes également de la Chine, du Japon, etc. Et en France, nous avons depuis 3-4 ans un bâtiment qui a été certifié. Actuellement, nous avons une cinquantaine de bâtiments qui sont sur le chemin de la certification du côté de Paris. Nous avons également une antenne tout près d'Annecy, donc c'est l'agence Minergie Rhône-Alpes qui s'occupe, tant qu'il n'y a pas d'autres agences en France, même de toute la France, il y a des demandes en France. Donc simplement, une demande doit parvenir à l'office certification Rhône-Alpes pour le moment, avec les plans, les différents documents, les calculs qui ont été faits, qui justifient que le bâtiment qui va être construit répondra aux exigences relativement sévères de Minergie ou Minergie P, Minergie Eco.
Mais en fait, on s'y retrouve à la fin lorsque on fait les calculs sur 10 ans ou sur 15 ans.
Au niveau de l'investisseur, naturellement, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un bâtiment bien conçu, dès le départ, dès le premier trait de crayon, coûte moins cher qu'un bâtiment conventionnel, et ça, c'est certain, ça a été prouvé à de nombreuses reprises. L'optimisation, c'est quelque chose qui fait des miracles, effectivement.
Merci à vous, Marc Tillemans.
Avec plaisir.
Et puis à très bientôt. Merci à vous.
À très bientôt.
Alors nos invités, bien sûr, vous ont écouté. Alain Mogard, donc Minergie, c'est pour la Suisse, mais on a Effinergie, nous aussi, en France.
Oui, oui, c'est, je vais le dire. Bon, d'abord, si les Suisses font ça, c'est pas des aventuriers, ça se saurait. Donc ça veut dire que c'est une voie solide. Et ça, je pense que tout le monde peut retenir que c'est sérieux. On va pouvoir y arriver, c'est sérieux. Alors, en France, on a examiné le problème, on a discuté avec Minergie, mais les conditions climatiques en France, les zones climatiques sont différentes. Il y avait des initiatives régionales de toutes les régions frontalières, mais aussi au centre de la France, qui fallait fédérer. Elles se sont fédérées sous le label Effinergie, qui sera, pour faire simple, le Minergie à la française. Voilà. Voilà. Donc c'est au point, nous nous mettons en ordre de marche, et donc nous trouverons une solution pour certifier des bâtiments à peu près au même niveau de performance. Hein. Effinergie vise les 50 kWh par mètre carré par an, même un peu moins à certains endroits, un peu, tout petit peu plus dans les zones climatiques difficiles. Donc c'est bon, on peut dire que, pour faire simple, nous avons désormais, nous allons nous mettre dans la même situation que les Suisses et que les Allemands.
Il faut, alors, faut préciser aussi qu'ils sont quand même soutenus, eux, par la Confédération helvétique, par les cantons, par l'économie et par les banques. C'est-à-dire que tout le monde y croit et tout le monde y est là-dessus. En plus, ils ont des réalisations. Ils en sont déjà plus de 7000 bâtiments, donc ça tourne bien, quoi.
Oui, 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 oui. Écoutez, ce qui a été possible en Suisse, mais aussi il faut citer l'Allemagne, sera possible en France. C'est typiquement.
Alors, qu'est-ce qui va faire évoluer les choses là, qu'est-ce qui va faire évoluer les choses? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même un peu frileux. Je veux dire qu'il y a quand même un certain manque d'ambition. On a beau avoir des réglementations thermiques, la dernière date de 2005, qui consiste en fait à avoir un plafond maximum de consommation énergétique, mais de 15% de moins que l'imposait la précédente réglementation. On ne va pas vous abreuver avec ça, mais c'est quand même ça la règle. Qu'est-ce qui va booster les choses?
Alors, qu'est-ce qui va booster, c'est que je crois qu'on est en train maintenant. Enfin, on a pris. Quand je dis on, c'est les régions qui ont montré l'exemple, régions qui ont été citées, qui ont constitué Effinergie, la direction de la construction, c'est-à-dire le gouvernement, d'ailleurs la campagne électorale a montré combien cette question-là de réchauffement climatique et d'économie d'énergie était quand même présente. C'était la première élection présidentielle où on parlait de ces sujets-là.
En tout cas, avant le premier tour avec Nicolas Hulot, c'est sûr.
Donc ce qui va bouger, c'est l'existence de ce type d'indicateur et tout ce qui va être déclenché derrière.
Parce qu'on a quand même un diagnostic de performance énergétique là, hein, qui vient de sortir depuis le 1er novembre 2006.
Ce qu'il faut imaginer, c'est que le consommateur est habitué, quand il va acheter l'électroménager, à avoir un étiquetage, classe A à classe G. Bon, en exprimant, alors pour l'habitat, ça va être la même chose. Ça ne va pas être C déjà. C'est une directive européenne d'ailleurs, hein. Ça c'est pas la France qui l'a voulu, c'est une directive européenne, et par contre elle est maintenant mise en application dans toutes les transactions.
Dans les transactions, quand je vais, mettons, vendre une maison ou acheter une maison, j'aurai ce certificat.
Il faut un diagnostic de performance énergétique qui délivre un étiquetage. Okay. Un étiquetage. Alors bon, il y a des choses à dire là-dessus, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Ce qui est important, c'est cet étiquetage et l'impact qu'il va avoir. On va de la classe A à la classe G. Mmh. La classe A, c'est l'excellence. C'est Effinergie, c'est Minergie, c'est moins de 50 kWh par an par mètre carré. La classe G, c'est malheureusement tout le parc construit avant 75. On a 13 millions de maisons passoires qui sont à plus de 400 kWh par an par mètre carré. Oui. Et notre RT 2005...
Donc la réglementation thermique.
Oui. Elle ne met la barre qu'au niveau de la classe D. Oui. On est à 150-200 kWh par an par mètre carré. Ça m'énerve, ça, parce que on va pas revenir dans 5 ans réhabiliter des bâtiments qu'on est à peine en train de livrer. Oui. Et il faudra peut-être le faire. Si le baril de pétrole monte à $100, il faudra revenir sur ces bâtiments dans moins de 5 ans. C'est une imbécilité française. Ce qui va changer avec cet affichage énergétique, c'est qu'on va se rendre compte que c'est directement lié à la valorisation du patrimoine. Oui. Autrement dit, deux maisons apparemment identiques.
Même en placement.
À localisation égale. Voilà. Parce qu'effectivement, ce qui fait le prix d'une maison, hein, c'est la localisation.
Nous sommes avenue Foch. On joue au Monopoly.
On va se rendre compte que, apparemment, elles sont identiques en surface, en volume et en façade. Mm-hmm. Mais il y en a une qui est dans l'excellence. Elle est classe A et l'autre est restée classe D, classe E. Ouais. Eh bien, les Suisses, d'ailleurs, qui ont plus d'avance là-dessus, l'observent. C'est qu'au moment de la vente, celle qui est classe A cote déjà aujourd'hui 10% de plus pas du prix de construction, mais du prix de vente.
D'accord.
Donc, ça vaut peut-être le coup d'investir quelques centaines d'euros de plus à la construction aujourd'hui, parce que dès qu'on les a investis, ces centaines d'euros, ils se transforment, multipliés par 2, par 3, par 4, pour valoriser le patrimoine si on devait faire cette transaction.
C'est comme ça que les gens vont devenir écologistes. Voilà.
Oui, et ils vont le devenir plus que vous le croyez, bien parce qu'il n'y a pas que l'étiquetage énergétique. Du vert vers le rouge, mais il y aura aussi une information sur le tonne de carbone économisé. Oui. Ça, c'est une option, à mon avis, très courageuse, qui n'existe qu'en France. Nous allons avoir un double étiquetage. Et je pense que pour tous ceux qui poussent à essayer de régler l'effet de serre, nous aurons aussi une information sur la tonne de CO2 économisée. Pas seulement sur l'énergie économisée. Et moi, je pense que c'est une des idées les plus importantes, c'est donner une information aux citoyens que nous sommes, citoyens du monde lorsqu'on traite le problème de l'effet de serre, sur les quantités de CO2 qu'on consomme. Et lui donner l'information de la quantité de CO2 qu'il consomme dans son bâtiment, ça c'est un progrès. Très intéressant.
Parce que Pierre Adam, je repense très souvent son expression quand il dit qu'on nous a donné en fait une carte bleue sans nous avoir appris à compter à la fois nos émissions de gaz à effet de serre et aussi nos consommations d'énergie. C'est ça, c'est que maintenant, dans notre nouvelle génération, on va apprendre à compter cela. C'est-à-dire sur chaque produit, ce sera ça, François Pellerin.
Oui, et le banquier, je ne vais pas citer de nom de banque, mais aujourd'hui, on a des banques qui justement sont sortis du stupide ratio d'endettement de 33% qui ne prenait en compte que la capacité
33% de ce que l'on gagne,
consacré. Bon, aujourd'hui, les banquiers intelligents, mais ils vont demander l'étiquetage. Parce qu'ils vont vouloir quand même être... Et donc derrière, garantie. Ça débouche sur des certificats, sur des... il faut bien qu'un tiers puisse dire que c'est exact, que ce bâtiment a telle performance. Donc ça, c'est indéniable. Il faut mettre ce système en place. Et d'ailleurs, ils sont en place. Mais ce banquier intelligent, il a poussé le ratio d'endettement à 39%, dans le cas que j'évoque, parce qu'il s'est rendu compte que finalement, si on ajoute le remboursement d'emprunt et l'économie de charges mensuelles, le taux réel de l'endettement était peut-être descendu à 25. Voilà. Donc quand tous les banquiers privés, et ils s'y mettent, et ils sont d'ailleurs plus en avance que le secteur public là-dessus, raisonneront comme ça, vous allez voir qu'on va pouvoir arriver à se payer cette qualité qu'on n'avait jamais pu se payer. Je l'ai dit, dernier coup de gueule, dans le domaine public, aujourd'hui, je suis condamné à réhabiter un bâtiment collectif, social, non isolé, construit en 50, avec 20 cm de béton, dans lequel le programme du maître d'ouvrage ne prévoit qu'un ravalement de façade, c'est-à-dire qu'une simple peinture.
Donc ça continuera à fuir, quoi.
C'est-à-dire que ce bâtiment est classé classe G.
Ah oui.
Et ce qui coûte cher dans un ravalement, ce qui coûte presque la moitié du prix, c'est l'échafaudage. Tant qu'à mettre un échafaudage, mettons autre chose qu'une peinture, mettons un isolant. Et ça, le maître d'ouvrage public, aujourd'hui avec les textes qui encadrent cette maîtrise publique, il ne peut pas, il n'a pas le droit de répercuter cet investissement sur le loyer, alors que l'occupant, le locataire, lui, si son loyer augmente un peu, pourvu que les charges divisent par deux ou par trois, et que la somme des deux fasse que c'est moins cher que ce qu'il payait avant, il dirait oui. Mmh. Et ben voilà. En France, on ne sait pas le faire parce que les mécanismes ne sont pas prêts.
Changement vraiment de logiciel dans notre tête. Alain Mauguer, quelques mots quand même sur les matériaux. Bon, on va construire avec quoi? Parce que maintenant, il y a plein de biomatériaux, pour le coup, donc, qui arrivent. Je ne sais pas, que ce soit effectivement de la laine de chanvre, que ce soit des gens qui travaillent de la paille.
Il
y a
le bois.
On n'essaie pas de fumer les murs, on est bien d'accord. Bon, c'est...
Oui, alors,
qu'est-ce que vous observez,
je pense que je peux avoir une idée.
La terre cuite aussi que l'on retrouve.
Idée simple. Bon, il va y avoir tous les matériaux classiques actuels sur le marché qui vont améliorer leur performance thermique. Oui. Et ça, c'est un mouvement. Tous les matériaux, la filière béton, la filière bois, la filière métallique, ce qu'on appelle l'isolation répartie, c'est-à-dire tout ce qui est des blocs isolants, ça s'améliore. Ça, c'est très intéressant. Et puis arrivent les biomatériaux. Alors, c'est une piste intéressante parce que dans la nature, il y a des biomatériaux qui ont des qualités d'isolation énergétique, et d'autres qualités d'ailleurs, parce que on gaspille pas les ressources naturelles, c'est des matériaux fabriqués. Alors là, je crois qu'il faut non pas rester prudent, mais il faut les confronter et bien vérifier quelles sont leurs performances. On est quand même dans une phase où certains annoncent des performances qui sont des performances folkloriques. Bon. Alors, moi, je pense que c'est une piste très sérieuse. D'ailleurs, le CSTB les évalue, contrairement à ce qu'on dit. nous sommes prêts à les évaluer, nous avons commencé à les évaluer, et je peux dire que certains de ces matériaux sont des pistes très sérieuses et nous pouvons souhaiter qu'ils se développent. Mais évaluer comme les autres et de façon tout à fait sereine, si je puis dire.
Les bâtiments, on va dire, durables de demain, juste en un mot, comment vous les voyez ou bien comment vous les rêvez l'un et l'autre, François Pellegrin? Qu'est-ce que ça doit être une société un petit peu idéale?
Il y a deux façons de faire un bâtiment durable. Il peut ne pas se voir plus que le bâtiment d'aujourd'hui. Oui. Ça peut être bon. Et puis il y a la voie qu'on aimerait nous davantage développer, les architectes. C'est celle où on pousse la conception au bout, à son maximum, tout en faisant évoluer les techniques. Parce que ce partenariat avec les industriels et les concepteurs s'effectuent souvent sur les projets et apportent beaucoup de solutions. Et donc, on peut arriver à des architectures un petit peu d'un autre look.
Oui. Et donc, juste en un mot, la Moga aussi.
Ben, écoutez, le bâtiment de demain, il va arriver beaucoup plus vite que prévu. Il sera zéro effet de serre. Il sera autonome, quasiment autonome. Et nous aurons une responsabilité, c'est de le faire fonctionner avec une sorte d'équilibre d'exploitation entre la production d'énergie et la consommation d'énergie. Donc pour moi, un bâtiment de demain, c'est un bâtiment dans lequel on se comportera en citoyen du monde.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Avec beaucoup, beaucoup de liens donc, créés par Anne Gouzon sur le site de CO2 Mon Amour, où vous allez avoir pas mal de lectures si vous le souhaitez. Vous avez sorti aussi un ouvrage, je tiens à le souligner, Alain Mogard, aux éditions du Moniteur, qui s'appelle Regard sur le bâtiment, le futur en construction. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. D'abord, merci à Céline Bonhomme et Clotilde Thomas à la technique, à Jean-Baptiste Audibert, à Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, que vous réécoutez pendant quoi 4 semaines, voilà, mais vous pouvez l'enregistrer, la podcaster, comme on dit presque en français, pendant une semaine. Et donc la semaine prochaine, ça va être complètement autre chose. Là, ça sera beaucoup plus nature, puisque on fêtera donc les journées de la nature en France, avec nos amis de Terre Sauvage, entre autres, avec France, une nature à découvrir. Reportage sur les temps de Cousseau en Gironde, Jean-Marie Pelt qui reviendra naturellement.